et midi et demi.
Europe Midi, spéciale présidentielle.
Édition spéciale d'Europe Midi jusqu'à 14h sur Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver effectivement pour cette édition spéciale d'Europe Midi. À la une aujourd'hui, le changement, c'est maintenant. Emmanuel Macron et Marine Le Pen chamboulent le paysage politique français en se qualifiant pour le second tour. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 14h sur Europe 1 pour comprendre ce qui est en train de se passer. Cette finale inédite qui s'annonce le 7 mai. Nous serons avec les deux candidats dans un instant. L'élimination des deux partis historiques, les Républicains et le Parti Socialiste. Édition spéciale également pour analyser la toute nouvelle carte électorale de France. Nous serons aux quatre coins du pays pour vous entendre, vous électeurs. Et puis tout à l'heure, je vous donne d'ores et déjà ce rendez-vous, 13h15. Ce sera en quelque sorte le premier débat de l'entre-deux-tours. Face à face dans notre studio, Florian Philippot pour Marine Le Pen et François Patriat pour Emmanuel Macron. Débat 13h15. Un mot de la météo avant tout ça. Bonjour Christine Peignard.
Bonjour Maxime et bonjour à tous.
On profite du soleil aujourd'hui.
Exactement, c'est la dernière belle journée estivale. Dans le sud-ouest, encore des températures très chaudes, hein, jusqu'à 27 degrés. Ailleurs, le soleil brille. Les températures grimpent aussi, mais c'est assez contrasté. On a plus de 10 degrés d'écart entre le nord et le sud-ouest, avec 15 à Lille, mais jusqu'à 27 à Agen, Montauban et Auch. Et je reviens dans une demi-heure pour vous annoncer de mauvaises nouvelles si vous aimez le soleil, mais de très bonnes nouvelles pour nos nappes phréatiques.
Météo complète juste avant 13h, Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi, spécial présidentiel.
Emmanuel Macron, 23,75% des voix. Marine Le Pen, 21,53% des voix. Lui, personne ne le connaissait il y a 5 ans. Elle n'a jamais eu de responsabilité au niveau national. Finale inédite dans 2 semaines. Finale qui est déjà dans toutes les têtes.
Moi, j'avais voté Mélenchon. J'ai voté Macron. Le Pen sortirait de l'Europe. J'ai peur que la France soit en faillite après, moi.
Je vais voter. Ce sera pour Le Pen, pour National. Je vois que ça avance pas sur la gauche, sur la droite. Je crois pas trop, parce que bon, ils sont tous contre elle, hein, tous les partis. Hein.
Macron, Le Pen, bon, ben, voilà, l'élection est finie. C'est, on n'en parle plus. C'est Macron qui est président. On a vu les régionales, ce que ça a donné avec le Front National. Ils ont voté pour le premier tour pour elle. Deuxième tour, ça a été plié aussi. Donc à chaque fois c'est la même histoire, donc on sait que c'est plié.
Je vais pas voter pour Macron, c'est pas possible. Ils nous ont fait le coup en 2002 en nous agitant Le Pen comme un épouvantail pour nous forcer et on se fait avoir. La perspective de Le Pen, ça colle les miquettes, donc forcément cette fois-ci je me ferai pas avoir.
Je vois pas pour qui voter. Il me place pas ni un ni autre. Peut-être que je vais faire un vote blanc.
Le deuxième tour déjà dans toutes les têtes, quelques réactions d'électeurs au micro Europe 1 de François Coulon à Nantes et de Benjamin Peter à Toulouse. La carte électorale française a été totalement dynamitée hier soir et c'est par là que nous avons choisi de démarrer ce journal pour bien poser les choses. Théo Manval, la France est coupée en deux.
Oui, c'est même une double fracture entre ville et campagne. D'abord, la France urbaine a plébiscité Emmanuel Macron quand la France rurale a plutôt voté Marine Le Pen. Illustration, les résultats à Paris n'ont jamais été aussi éloignés de ceux du reste du pays. Le candidat En Marche fait près de 35% dans la capitale quand la candidate frontiste est à moins de 5%. Dans le Rhône, la Haute-Garonne, Marine Le Pen tourne autour de 16%, mais dès qu'on regarde les grandes villes, Lyon, Toulouse, elle tombe à 7 ou 8%. Même chose dans les départements où elle fait pourtant ses plus gros scores, le Bas-Rhin ou le Nord. Ses résultats sont carrément divisés par deux à Strasbourg ou à Lille.
Et la deuxième fracture, Théo, elle se fait entre l'Est et l'Ouest.
Et oui, Marine Le Pen est en tête dans 47 départements, Emmanuel Macron 42. La candidate FN s'impose dans tout un arc nord-est, de la Seine-Maritime jusqu'à l'Ain, jusque dans le sud-est aussi, le Var, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes. Elle fait ses meilleurs scores dans l'Aisne et dans le Pas-de-Calais. À l'opposé, tout un flanc ouest de la France place Emmanuel Macron en tête. Outre l'Île-de-France, il fait ses plus gros scores en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère, en Loire-Atlantique ou dans les Côtes d'Armor. On le voit, Maxime, géographiquement aussi, ce sont bel et bien deux France qui se font plus que jamais face.
Merci Théo Manval. Deux invités vont nous accompagner dans ce journal. Jean-Daniel Lévy, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive. Merci d'être là. Olivier Roucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur associé au Centre d'études et de recherche de sciences administratives et politiques. Jean-Daniel Lévy, je reviens sur cette carte de France que l'on décrive à l'instant, carte complètement chamboulée.
Carte complètement chamboulée. Peut-être qu'on peut ajouter deux zones également de fracture dans la cité française. C'est une fracture générationnelle. Pour faire vite, une personne sur deux qui a voté pour Emmanuel Macron est âgée de plus de 50 ans. Et c'est exactement l'inverse de la part de l'électorat de Marine Le Pen, qui est un électorat beaucoup plus jeune. Et puis l'autre fracture, c'est une fracture à caractère social. L'électorat de Marine Le Pen est un électorat véritablement populaire. Près d'une personne sur deux qui a voté pour Marine Le Pen est issue des catégories populaires. Et à l'inverse, Emmanuel Macron bénéficie non seulement des catégories supérieures, mais également des personnes qui sont retraitées et plutôt aisées.
Voilà, carte électorale chamboulée, mais parce que le paysage politique que l'on connaissait a éclaté, Olivier Roucan.
Oui, disons que c'est un peu un écho du tremblement de terre de 2002, hein, cette élection. Et de ce point de vue, on voit bien que les partis de gouvernement n'arrivent plus à traduire dans leurs projets, sur le plan, j'allais presque dire, idéologique, les lignes de force, les clivages naissants, émergents, qui pourraient marquer la bipolarisation à venir. Mmh. Mais les deux partis de gouvernement n'ont pas suffisamment renouvelé et clarifié leurs projets pour représenter ce nouveau clivage.
Merci à tous les deux pour ces premières analyses. On va vous retrouver tout au long de ce journal. Mais d'abord, nous allons à Rouvroy, dans le Pas-de-Calais. Marine Le Pen est déjà repartie en campagne. Maxence Lambrecq, vous l'avez suivi ce matin sur un marché.
Oui, Marine Le Pen vient de se promener un quart d'heure sur le petit marché de Rouvroy au cœur du bassin minier, très souriante, très détendue. Cette deuxième place ne l'arrange pas, mais elle ne le montre surtout pas.
Bonjour.
Bonjour.
Allez, bisous.
Courage.
Voilà, merci.
Allez,
beaucoup.
Merci. À merci. Vous.
Une petite photo peut-être.
Oui, s'il vous plaît.
Allez, Annette.
Vous voyez votre téléphone à la main.
Je prends ta photo après. Je peux en prendre une aussi?
Bien sûr.
Vas-y.
Elle a réuni 42% des voix ici, hein, devant Jean-Luc Mélenchon à 27%. Macron et Fillon très loin derrière. Elle vient donc parler à cette gauche anti-libérale, anti-système, puis fait mine de s'amuser devant les nombreux appels à voter contre elle.
Oui, le vieux front républicain tout pourri, dont plus personne ne veut, que les Français ont dégagé avec une violence rare, essaye de se coaliser autour de M. Macron. Mais j'ai presque envie de dire tant mieux.
Car cela permet en effet à Marine Le Pen de se présenter comme la candidate de l'alternance, tout en distribuant un tract qui a pour titre « Éradiquer le terrorisme islamiste ». Il a été imprimé au lendemain de l'attentat des Champs-Élysées.
Maxence, quel est le programme de l'entre-deux-tours pour Marine Le Pen ?
Eh bien, Marine Le Pen est en route pour Paris en ce moment. Elle retrouvera sa garde rapprochée en début d'après-midi à son QG. Objectif, caler l'agenda médiatique de cette semaine, valider les tracts, les slogans. La patronne du FN veut aller vite, essayer de se démultiplier. Un déplacement par jour, nous promet son équipe. Et priorité aux cartes postales plutôt qu'aux visites thématiques. La première carte postale, ce pourrait être sur le marché de Rungis demain matin. Son équipe prévoit aussi deux jours dans le sud-est avec pour point d'orgue un grand meeting à Nice jeudi soir. Mais tout sera annoncé à la dernière minute, car j'ai peur des milices d'extrême gauche, m'a confié Marine Le Pen. Cela installerait un climat qui n'est pas propice au rassemblement, dit-elle. La patronne du FN cherche toujours à adoucir son image pour séduire des électeurs de droite dont elle a cruellement besoin pour créer une dynamique.
Un reportage de Maxence Lambrecq en direct de Rouvroy dans le Pas-de-Calais pour Europe Midi. Nous étions à l'instant avec Marine Le Pen, donc nous basculons maintenant côté Emmanuel Macron. Avec vous, David Doucan. David, ce matin pour le candidat d'En Marche, c'était bain de foule et réunion stratégique.
Eh oui, réunion stratégique parce que il ne savait pas jusqu'ici contre qui il serait au second tour. Face à Marine Le Pen, vous ne faites pas les mêmes déplacements que face à François Fillon, par exemple. Faut-il aller la combattre là où elle réalise ses plus gros scores ? Faut-il au contraire se concentrer sur la France macroniste de l'Ouest pour mobiliser ? Voilà les questions que se sont posées les stratèges ce matin. Il y a quelques instants, le candidat est arrivé à son quartier général. Ses équipes lui ont donc proposé un plan de bataille. Il est en train de le valider, de l'amender. C'est comme ça depuis le début avec Emmanuel Macron. C'est une campagne un peu au jour le jour, en impro, très mobile. Par exemple, il devait aller ce soir commémorer le génocide arménien, c'est finalement annulé. Sur le fond, le message a été énoncé hier soir, rassemblé pour faire barrage au FN bien sûr, mais aussi essayer d'incarner l'alternance pour séduire les électeurs de François Fillon.
Je souhaite devenir votre président, le président des patriotes face à la menace des nationalistes. J'ai entendu vos aspirations à l'alternance véritable. Le défi n'est pas d'aller voter contre qui que ce soit. Le défi est de décider de rompre jusqu'au bout avec le système qui a été incapable de répondre aux problèmes de notre pays depuis plus de 30 ans.
David Doucan, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont conviés demain à l'hommage national qui sera rendu aux policiers tués la semaine dernière sur les Champs-Élysées.
Oui, absolument. L'Élysée a décidé d'inviter les deux finalistes. Cet hommage se tiendra demain à 11h. Marine Le Pen a confirmé sa présence. Emmanuel Macron aussi nous fait dire qu'il sera présent.
Merci David Doucan. Avec nous dans ce studio, le chef du service politique d'Europe 1, Antonin André. Antonin, avec cette finale qui s'annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est à la fois l'assurance du renouveau d'une manière ou d'une autre et le saut dans l'inconnu.
Oui, formidable aspiration de renouveau, effectivement, qu'on se passe du point de vue de Marine Le Pen qui était attendu au second tour, mais tout de même, c'est tout de même un vrai bouleversement. Et puis, formidable aspiration de renouveau avec Emmanuel Macron, 39 ans, inconnu il y a deux ans, qui s'est construit en dehors des partis. Aspiration aussi à l'optimisme. Hein. Il en est un peu le visage, Emmanuel Macron, cette espèce d'enthousiasme, ce regard bleu, son sourire. Et puis, une élection présidentielle, c'est vrai qu'il y a toujours une petite part d'utopie, de rêve. Et donc, lui incarne un peu cette promesse s'il sort victorieux du second tour, ce qui n'est pas encore fait, rappelons-le. Mais c'est après que le plus dur va commencer, parce que on entre dans l'inconnu. Le visage de la France qui sort de cette élection, c'est celui d'un pays fracturé, 20% d'abstentionnistes, et puis 40% des électeurs, si on additionne les voix, qui votent pour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire deux candidats des extrêmes aux actions populistes, anti-européens, en tout cas sous la forme actuelle de l'Europe, qui sont contre aussi cette idée d'ouverture sur le monde. Et rassembler le pays autour d'un projet s'annonce donc très compliqué pour celui qui sortira vainqueur. Emmanuel Macron est fort dans la conquête du pouvoir, on l'a vu, mais c'est dans son exercice qu'il va devoir dès maintenant commencer à se projeter avec qui gouverner, quelles alliances, autour de quelles réformes, pour que la promesse très forte qu'il incarne ne se transforme pas en désillusion.
Antonin André, chef du service politique d'Europe 1, merci Antonin. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 13h15, nous organiserons donc un débat entre Florian Philippot pour Marine Le Pen et François Patriat pour Emmanuel Macron.
Europe 1, il est 12h41. Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous, Maxime Switek, édition spéciale.
Nous allons voyager au cœur de cette France que l'on décrivait à l'instant comme coupée en deux. Nous irons dans le Vaucluse où Marine Le Pen atteint des sommets et du côté des Hauts-de-Seine où Emmanuel Macron enregistre parmi ses meilleurs scores. À tout de suite.
Europe Midi, spécial présidentiel.
Il est 12h44 sur Europe 1, la suite de cette édition spéciale d'Europe Midi, Maxime Switek avec maintenant le Vaucluse.
Le Vaucluse qui fait partie des départements où Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores. La candidate du Front National est au-delà de 30%. On vous y retrouve pour Europe Midi, Nathalie Chevance. Le Vaucluse est devenu, on le sait, un des fiefs du FN et à chaque élection, désormais, Marine Le Pen fait mieux que la précédente.
Oui, ici dans le Vaucluse, la victoire est nette. Marine Le Pen en tête avec 30,5% des voix. C'est 3,5 points de plus qu'en 2012. Le Vaucluse, département pauvre, Annie habite au Pontet, ville FN, 34% pour la candidate du Front au premier tour. Voilà pourquoi cette électrice à la retraite a voté pour elle.
Étant donné qu'on a des retraites qui sont minimes, on a travaillé 43 ans et on pense même pas à nous augmenter les retraites. C'est de la haine même. C'est même plus de la colère, c'est de la haine, madame. Les gens, ils en peuvent plus. Il n'y a plus aucun espoir de rien.
Avec en prime ici, dans ces petites villes dortoir, un discours anti-immigrés contre les musulmans en particulier, comme à Carpentras où Joël a voté Marine Le Pen, comme près de 32% des électeurs dans sa ville.
Je veux que la France soit aux Français et j'ai pas envie que mes petites filles de 7 et 11 ans soient voilées dans quelques années. C'est pas que je sois raciste, c'est que je veux pas qu'ils prennent le dessus sur nous.
Et même ici, loin des grandes villes, la peur du terrorisme a pesé sur le vote FN. C'est l'explication d'Albert qui habite à Monteux, 36% pour Marine Le Pen.
Les attentats, il y a trop de personnes qui rentrent en France qui sont illégales et tout. Il faut faire un tri complet, c'est affreux.
Quant à Richard, c'est pour le changement qu'il a voté, ni facho ni raciste, dit-il.
Ni droite ni gauche, mais un autre parti qu'on ne connaît pas. Autant voter pour quelqu'un qu'on n'a jamais eu au pouvoir.
Et le FN toujours très haut, 39,5% à Sorgues, plus de 45% à La Palue, petite commune de 3800 habitants.
Nathalie Chevance du côté du Vaucluse, donc pour Europe 1. On va remonter vers le nord, direction les Hauts-de-Seine en région parisienne. Là, c'est Emmanuel Macron qui arrive nettement en tête. Il est à plus de 32%. Aurélien Fleurot, vous êtes à Issy-les-Moulineaux, dans un département habituellement chasse-gardé de la droite.
Oui, Maxime, et dans une ville où Emmanuel Macron est arrivé largement en tête avec 37% des suffrages. Pour vous situer, en 2007 et en 2012, c'est Nicolas Sarkozy qui était devant au premier tour. Mais le candidat d'En Marche a su convaincre un électorat plutôt centre-droit, à l'image de Jacqueline qui vit à Issy depuis plus de 30 ans.
Bon, j'avais été assez déçue par les deux primaires, je dois dire. Disons, dans la configuration qui était celle du premier tour, je suis contente du résultat, oui, effectivement. Puis le dépassement des clivages partisans également. Je trouve que c'est une bonne chose, que notre pays a plutôt besoin de ça que de posture. Voilà.
Un positionnement au-delà du clivage classique gauche-droite qui a également fonctionné chez les électeurs de gauche. Pour Abderrahmane, voter Macron, eh bien, ça a été un choix logique.
C'est naturel. Enfin, moi, personnellement, j'ai voté pour lui parce que, bien que j'ai des idées de gauche, et voilà, je trouve que c'est le plus prêt à conduire la France demain, dire qu'on est fiers d'être français, que la France, c'est la générosité et tout ça. Moi, je pense que c'est un vote logique.
Et si certains me disent avoir voté Macron par élimination, il y a aussi des déçus, ceux dont le candidat ne s'est pas qualifié pour le second tour. Pour une grande majorité, ils me disent qu'ils iront voter plutôt contre le Front National, qui est arrivé ici hier en cinquième position avec moins de 7% des voix.
Aurélien Fleurant, direct d'ici des Moulineaux pour Europe Midi. Je vous rappelle qu'avec nous en studio, Jean-Daniel Lévy est là, directeur du département politique et opinion de l'Institut Harris Interactive, et Olivier Roucan, politologue et chercheur associé au CERSA. Merci à tous les deux d'être là encore une fois. On va se projeter avec vous, Jean-Daniel Lévy, vers le deuxième tour. Clairement, on a un favori et une challengeuse, on va dire ça comme ça ?
Absolument. En général, les sondeurs sont assez prudents, mais en tout cas, sur la base d'une enquête qu'on a réalisée hier soir pour M6, une fois les résultats connus, en interrogeant un peu plus de 2000 personnes qui sont inscrites sur les listes électorales, on a des intentions de vote qui amènent 64% des électeurs qui déclarent avoir l'intention de voter pour Emmanuel Macron, sans grande variation par rapport aux enquêtes qui étaient réalisées avant le premier tour. Alors, on le sait, une campagne va se réaliser, il va y avoir des débats, peut-être une modification des enjeux de la campagne. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, il y a une dynamique qui s'inscrit envers Emmanuel Macron. Pas forcément l'enthousiasme complètement à son égard, mais un vrai effet repoussoir de Marine Le Pen de la part d'une grande partie des électeurs.
Mais on s'aperçoit, si on se base sur ces chiffres-là, sur ces sondages-là, Olivier Roucan, qu'on est loin, par exemple, du score de Jacques Chirac. On serait loin du score de Jacques Chirac de 2002, qui avait fait 82% face à Jean-Marie Le Pen. C'est plus du tout la même configuration.
Plus du tout la même configuration, du fait des dernières années qui se sont écoulées, avec une institutionnalisation, la conquête d'un certain nombre de mairies, un réseau d'élus locaux, d'ailleurs, dont Marine Le Pen s'est pas forcément servi suffisamment, ce qui montre aussi sa stagnation par rapport aux enquêtes d'opinion qui avaient pu la concerner, qui étaient plus hautes. Mais donc, il y a cette installation dans le paysage qui fait qu'a priori, sur le... Et puis, il y a la colère, le rejet, la défiance qui s'est durablement installée par rapport au système, comme on dit. Et ça, Marine Le Pen va donc connaître une progression plus importante que celle de Jean-Marie Le Pen en 2002, entre le premier et le second tour, sans doute.
Vous parlez d'installation dans le paysage. L'une des preuves de cette installation, c'est qu'il y aura bien un débat de l'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça n'avait pas été le cas avec Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.
Exactement, et c'est aussi la raison pour laquelle la thématique du rejet du Front National sur le mode parti d'extrême droite, etc., etc., marche moins, notamment auprès sans doute d'un électorat plus jeune. Et on sait que Marine Le Pen a beaucoup de 18-24 ans, et cette thématique marche aussi beaucoup moins auprès des sans préférence partisane ou des personnes qui sont vraiment en colère aujourd'hui. Et de ce point de vue, il faudra observer les vases communicants entre l'électorat de Mélenchon et un éventuel vote de second tour.
Et voilà, voilà pour ces analyses. On va poursuivre avec vous, messieurs, dans un instant. On va faire une petite pause, une information en bref juste avant pour vous dire que 29 personnes ont été placées en garde à vue hier soir à Paris après des heurts avec la police, notamment du côté de la Bastille et de la place de la République. 6 policiers et 3 manifestants ont été blessés. Et on a appris également que le siège parisien de la CFDT avait été vandalisé, vitres brisées, façades taguées après l'appel lancé par le syndicat à voter Emmanuel Macron au deuxième tour.
Il est 12h50 sur Europe 1. Dans un instant, la suite de cette édition de Europe Midi, édition spécial avec vous, Maxime Switek.
Et avec les vaincus, réunion de crise ce matin chez les Républicains, gueule de bois au Parti Socialiste et dilemme chez les militants de Jean-Luc Mélenchon. À tout de suite.
Europe Midi. Spécial présidentiel.
Et cette édition spéciale se poursuit. Il est 12h52 sur Europe 1. Elle se poursuit avec vous, Maxime Switek, avec donc les vaincus de ce premier tour.
A commencer par François Fillon, troisième du premier tour avec 19,9%. J'assume ma défaite, a dit hier soir le candidat Les Républicains, dont la campagne était plus que perturbée par les affaires. C'est la première fois sous la 5e République que la droite est absente du deuxième tour. Aurélie Herbemont, vous êtes au siège du parti Les Républicains à Paris, où le comité politique se réunit en ce moment pour une première réunion de crise.
Oui, une première réunion de crise qui se termine à l'instant, au moment où je vous parle, après quasiment 2h30 de débat, à une première réunion avant le vrai règlement de compte ce soir au bureau politique. Alors autour de la table ce matin, vous aviez deux camps, ceux qui, comme Laurent Wauquiez, disent qu'il faut juste appeler à faire barrage au Front National, quitte à favoriser l'abstention pour ne pas se couper des électeurs de droite qui ne veulent pas du Front Républicain, et ceux qui, comme Xavier Bertrand, sont formels, il faut voter pour Emmanuel Macron. Nathalie Kosciusko-Morizet appelle à se mobiliser vraiment pour le candidat d'En Marche.
Comment on s'organise pour que, au deuxième tour, les voix de nos électeurs, les voix républicaines, se portent sur Emmanuel Macron ? J'appelle à la mobilisation pour faire battre Marine Le Pen.
Tout le monde ne veut pas aller aussi loin et il y a une personne qui a voulu pousser un cri de colère ce matin. C'est Nadine Morano, qui n'est pas membre de ce comité politique, mais elle est venue voir la presse.
appeler à voter Emmanuel Hollande, je suis désolée, mais là je tombe de l'armoire une deuxième fois. C'est un programme, enfin un non-programme d'ailleurs, que j'ai combattu. Et aujourd'hui, sans débat, je suis désolée, cette élection, ça a été quasi un suicide de notre famille politique, je ne vais pas participer à l'enterrement.
Alors Nadine Morano reviendra ce soir pour dire tout ce qu'elle a à dire devant la seule véritable instance dirigeante du parti, le bureau politique, sur le second tour, les affaires et même sur le programme de François Fillon. Bref, opération grand déballage en vue. D'autres sarkozystes ont d'ailleurs prévenu, ce sera sans concession.
Oui, et j'ajoute qu'en cette mi-journée, Nicolas Sarkozy réunit justement ses soutiens pour un déjeuner. Brice Hortefeux, François Baroin, Christian Jacob ou encore Laurent Wauquiez. Merci Aurélie Herbement en direct du QG, les Républicains, Jean-Daniel Lévy. Clairement, les électeurs de droite ont fait payer à François Fillon le feuilleton des affaires. Vous le voyez ça dans les études d'opinion?
On le voit clairement. Le deuxième aspect, c'est que la baisse de François Fillon avait été entamée avant les affaires, comme on dit. Mm-hmm. Il y avait eu un vrai débat sur la sécurité sociale, sur, d'un point de vue global, le système de solidarité dans notre pays, et une partie des catégories populaires avait d'ores et déjà quitté François Fillon, notamment pour aller, mais pas uniquement, vers Marine Le Pen. Donc avec une fragilisation du candidat. Quoi qu'il en soit, on voit que l'électorat de Nicolas Sarkozy de 2012 ne s'est pas mobilisé pleinement vers François Fillon, et où à peine un électeur sur deux de Nicolas Sarkozy en 2012 a voté en faveur de François Fillon hier.
Crise à droite, mais que dire du PS? 6,35% pour Benoît Hamon hier au premier tour. Un naufrage pour le candidat socialiste, abandonné par plusieurs figures de son parti. Mais en cette mi-journée, William Galibert, Ruth Solferino, on a droit à une unité de façade.
Oui, alors au PS, on a trouvé le seul sujet qui ne fâche personne. Il faut battre le Front National, faire barrage à Marine Le Pen. C'est le seul étendard qui peut encore rassembler le Parti Socialiste tel qu'on le connaît. Pour ça, c'est l'appel au vote pour Emmanuel Macron et un tract à 4 millions d'exemplaires qui va être distribué. Mais effectivement, derrière cette façade républicaine, les élus, comme le député Yann Gallu, sont lucides sur la situation.
On assiste à un Big Bang. Il faut reconnaître les choses. Les Français ont voulu du renouveau. C'est la première fois que les deux partis de gouvernement ne sont pas au deuxième tour. Donc, on a devant nous une recomposition de la vie politique française. Il va falloir reconstruire la gauche et il va falloir clarifier certaines choses.
La clarification, elle concerne en premier lieu ces socialistes qui ont fait très tôt le choix d'Emmanuel Macron alors que le candidat du parti s'appelait Benoît Hamon. On pense d'abord à Manuel Valls, écoutez la sénatrice Frédérique Espagnac.
Moi je crois au Parti Socialiste et si lui n'y croit pas, c'est son problème. En tout cas, si on avait tous été derrière le candidat, sans doute qu'il aurait fait un meilleur score. Donc l'unité en général prime, quand c'est pas le cas, on voit le résultat.
Alors devant moi, dans la cour de Solferino, il y a un camion un peu poussiéreux qui affiche un portrait géant de Benoît Hamon. Les élus du Parti Socialiste sont passés devant sans trop oser le regarder ce matin avant le bureau national. À l'horizon, il y a des législatives pièges pour un PS à 6%, mais pour l'instant, les positions restent figées. Le premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis vient de nous le dire, c'est la fin d'une époque. L'introspection viendra, mais avant le deuxième tour, le temps de l'explication n'est pas encore venu.
William Galibert en direct de la rue de Solferino pour Europe Midi. Olivier Roucan, le PS est en danger de mort?
En disant que, comme disait François Mitterrand, une messe est possible. C'est-à-dire que, en effet, le PS risque d'avoir, cela a été dit, un choix à faire dans tous les cas, ses dirigeants et ses députés, parce que les législatives approchent. Que faire? Faut-il essayer de peser pour l'après en renouvelant la direction, en se mettant derrière Manuel Valls? Ou faut-il, si cela va dépendre du score d'Emmanuel Macron, faut-il suivre tout de suite et bien se positionner dans un mouvement qui élargit un peu le socle de En Marche pour l'instant? Ça va être le dilemme. Ensuite, il y a l'autre point, ça va être que vont faire les proches de Benoît Hamon et ses troupes. Une alliance avec Mélenchon est-elle possible? C'est la recomposition qui est ouverte et il est trop tôt pour se prononcer. Mais le scrutin législatif va beaucoup compter et ça, c'est un changement du système aussi
et
politique.
Toute dernière question pour vous, Jean-Daniel Lévy. Ils sont passés où les électeurs du PS? Forcément chez Jean-Luc Mélenchon?
Ils sont passés déjà en premier lieu du côté d'Emmanuel Macron et pas du côté de Jean-Luc Mélenchon. Également après en deuxième position vers Jean-Luc Mélenchon et puis en troisième position vers Benoît Hamon. Donc il y a eu une vraie recomposition du Parti Socialiste et l'électorat de François Hollande de 2012 s'est pour plus d'un sur deux mobilisé en faveur d'Emmanuel Macron.
Merci à tous les deux. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy. Merci Olivier Roucan d'avoir accepté de venir comme ça dans le journal, de nous accompagner pendant cette édition d'Europe Midi, édition spéciale qui va se poursuivre dans un instant avec le journal. Et puis nous poursuivrons par un débat, en quelque sorte le premier débat de l'entre-deux-tours entre Florian Philippot pour Marine Le Pen et François Patria pour Emmanuel Macron. Ce sera à 13h15. À tout de suite pour le journal.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h01.
Europe Midi, spécial présidentiel.
Édition spéciale jusqu'à 14h, le journal Maxime Switek.
Et à la une, à peine le premier tour passé, la campagne recommence déjà. Marine Le Pen sur un marché du Pas-de-Calais ce matin. Emmanuel Macron qui profite d'un bain de foule à la sortie de son QG parisien. Deux images pour lancer la course finale vers l'élection du 7 mai. Une finale inédite avec Anne-Laure Jumet. Deux candidats qui défendent des programmes très différents. On va parler de ces programmes et on commence par l'économie.
Alors, les candidats n'utilisent pas les mêmes leviers pour doper le pouvoir d'achat. Marine Le Pen propose une prime de pouvoir d'achat de 80 euros par mois en moyenne pour les salaires inférieurs à 1500 euros par mois et une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, sauf sur la tranche supérieure. Mmh. Emmanuel Macron promet lui un gain de 250 euros par an pour un salarié au SMIC en supprimant les cotisations maladie et chômage, une mesure qu'il finance par une augmentation de la CSG. Et puis il propose aussi une exonération de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui la payent. Sur l'âge de la retraite, les positions divergent également. La présidente du Front National prône le retour à 60 ans pour tous, tandis qu'Emmanuel Macron souhaite supprimer les régimes spéciaux. Enfin, forte opposition bien sûr sur l'Europe, sortie de l'euro pour Marine Le Pen, création d'un gouvernement économique de la zone euro pour Emmanuel Macron.
Divergence importante également sur l'éducation par exemple.
Oui, Emmanuel Macron veut renforcer les moyens en zone prioritaire en divisant notamment par deux le nombre d'élèves en CP et CE1. Rien de tel pour Marine Le Pen qui propose, elle, de réserver la moitié du temps d'enseignement en primaire à l'apprentissage du français. Elle veut aussi supprimer la réforme des rythmes scolaires. Elle appelle aussi à la fin du collège unique et à l'apprentissage à partir de 14 ans. Le leader d'En Marche propose lui le retour des filières européennes. Et puis Marine Le Pen souhaite le port de l'uniforme à l'école. Emmanuel Macron propose lui de supprimer l'usage du portable en primaire et au collège.
Et un mot de l'immigration.
Eh bien Marine Le Pen veut supprimer le droit du sol et interdire le droit au regroupement familial. Elle veut un moratoire sur l'immigration légale avant de diviser par 20 le nombre d'entrées sur le sol français. Emmanuel Macron promet lui l'examen en moins de 6 mois des demandes d'asile. Ceux qui n'y auraient pas droit seraient reconduits sans délai vers leur pays d'origine.
Merci Anne-Laure Jumet. Il fallait parler de ces programmes, évidemment, au cœur de cette édition spéciale. Deux programmes, deux candidats et un débat juste après ce journal avec en studio en direct avec nous un représentant de chaque camp. Parmi les points d'observation que nous avons choisis pour comprendre les résultats d'hier soir et anticiper ceux du deuxième tour, il y a l'usine Whirlpool d'Amiens, usine en grève. Elle doit être délocalisée. Vous êtes sur place Gwendoline Debono. Les ouvriers ont déjà donc le second tour en tête.
Oui, depuis le milieu de la nuit, les salariés se relaient pour tenir le piquet de grève. Lorsqu'on parle du scrutin, beaucoup haussent les épaules. Tous travaillent à l'usine depuis 20, 25 ou 30 ans. Une vie avec désormais l'incertitude comme seule perspective. Franciane ne croit en aucun des deux finalistes.
Que ce soit l'un ou comme l'autre, je suis sûre qu'il n'y aura rien de fait. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers à partir et personne ne fait rien.
Devant les palettes en feu, certains s'interrogent tout de même sur le second tour. Pas d'enthousiasme, mais Sébastien, Bénédicte et Agnès voteront Marine Le Pen pour son programme économique.
Ça sera pour Marine Le Pen. Ce que je veux, c'est sortir de l'Europe.
Il y a qu'elle vraiment qui a parlé de nous, qui a parlé du travail qui part ailleurs. Donc aujourd'hui, on sait pour qui voter.
Et elle parle aussi de taxer les produits qui reviendront en France, qui seront fabriqués en Pologne. Ça peut être une solution.
Parce qu'après Whirlpool, qui sait ? Ça sera qui après ? Ça sera Dallop, ça sera qui ? Puis on ira où travailler ?
Le Pen ou l'abstention, ils seront peu à se tourner vers Emmanuel Macron. Beaucoup lui en veulent. Pour une raison presque affective.
Monsieur Macron est amiennois, on ne l'a pas encore vu arriver, il ne parle pas de nous. Pratiquement, qui dit qu'il est pour tout ce qui est délocalisation. En étant ancien amiennois, moi, même s'il vient, à mon avis, il va se faire huer.
Le candidat d'En Marche est prévenu, mais il viendra. Ses conseillers ont confirmé aux syndicalistes de Whirlpool une rencontre avec les salariés à Amiens avant le 7 mai prochain.
Un reportage de Gwendoline Debono à Amiens pour Europe Midi. Une réaction au résultat de ce premier tour et à cette qualification de Marine Le Pen. Elle fait mieux que son père en 2002 et pourtant, lui, reste assez critique. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Le Pen.
J'aurais souhaité une campagne plus enthousiaste, moins convenue en quelque sorte, mais avec l'esprit des soldats de l'an 2, pieds nus et la baïonnette au canon, avec moins le désir de se dédiaboliser, comme elle disait, Moi, je n'ai pas peur d'être le diable aux yeux de mes adversaires.
Donc plus clairement à droite ?
Plus clairement français, en tout cas. Plus clairement critique à l'égard de la politique menée depuis 40 ans.
Vous ferez campagne aux côtés de votre fille, Jean-Marie Le Pen ?
Ça ne dépend pas de moi. Moi, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut contre M. Macron, qui a trompé un certain nombre d'électeurs en avançant masqué alors qu'il est un socialiste déguisé. Et j'ai vu d'ailleurs apparaître aujourd'hui dans le slogan de son parti, c'était « En marche ». Et aujourd'hui, c'était « En marche la France ». Brusquement, M. Macron a découvert la France.
Jean-Marie Le Pen avec Thomas Soto pour Europe 1. Les premiers sondages tombés depuis hier pour le deuxième tour donnent une avance assez nette à Emmanuel Macron, un peu plus de 60% des voix, quels que soient les instituts. Le candidat d'En Marche qui va devoir convaincre notamment les électeurs déçus de François Fillon. Le candidat Les Républicains a clairement appelé à voter pour Emmanuel Macron dès hier soir, mais ses supporters vont-ils le suivre ? Frédéric Michel, vous êtes à Nice avec des électeurs de droite.
Oui, douche froide et casse-tête pour les électeurs LR ici à Nice. Ils ont entendu l'appel de François Fillon, mais sont pour certains un peu perdus.
Il faut réfléchir entre suivre ce que nous dit François Fillon, ou voter blanc, ou s'abstenir, je sais pas.
Je sais pas si je vais pas voter blanc, mais je vote pas pour Marine, je pense pas.
Tout est ouvert, je sais pas du tout, aucune idée. Je vais me poser, réfléchir à tout ça, voir un petit peu ce qui se passe, et puis on verra bien.
Et le vote Marine Le Pen ne semble plus tabou. D'ailleurs, André est persuadé qu'ils seront nombreux chez les Républicains à voter comme lui pour la candidate du Front National.
Mais bien sûr, évidemment. Elle n'est plus si extrême que ça et elle ne commettra pas de dégâts. Elle a des gens talentueux entre Fillon et Marine Le Pen. Ce sont deux républicains.
Un avis loin d'être partagé par tous dans la ville de Christian Estrosi où l'on a la nostalgie de Nicolas Sarkozy.
Ah non, moi ça va pas être compliqué. J'ai horreur des fachos, quoi, qu'ils soient de droite ou de gauche. La question se pose pas.
La question c'est de faire barrage au Front National. Pour notre pays c'est important et c'est essentiel. Et après de gagner l'initiative pour notre pays également.
Et dans les Alpes-Maritimes, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête du scrutin devant François Fillon.
Frédéric Michel à Nice pour Europe Midi. L'autre clé de ce scrutin, il réside dans les mains entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui a terminé quatrième hier, 19,6%. On a lu sur son visage hier soir la déception de ne pas être au second tour. Il y croyait. Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas donné de consigne de vote pour dans deux semaines. Mélanie Nunes, ce sont ses militants qui vont trancher.
Eh bien oui, Maxime, Jean-Luc Mélenchon attend la consultation de ses militants. Ils voteront en ligne, sur Internet, sur la plateforme de la France Insoumise. Les modalités de ce vote seront dévoilées dans la journée, mais beaucoup sont déjà sur deux. Ils ne souhaitent pas prendre parti entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
J'ai pas envie de voter entre la peste et le choléra, je ne le ferai pas. Choisir entre le marketing des banques et choisir entre le sadisme de tortionnaires, moi, mon choix, il est blanc. Donc j'irai voter, mais avec fierté.
Entre la peste brune et le choléra libéral, on va pas choisir. Et je voterai blanc. Je suis aussi déçu pour la France, parce qu'en fait, l'élection de Macron, c'est le marchepied pour Le Pen la prochaine fois.
Moi, je ne me suis pas encore décidé. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on a le pyromane et l'incendie, quoi. C'est pour ça que j'hésite beaucoup. Et en même temps, j'ai tellement en horreur Madame Le Pen. C'est difficile de choisir.
Sans doute blanc.
Blanc, je sais pas, parce que c'est comme c'est pas reconnu, autant s'abstenir.
Alors si ce vote blanc l'emporte, Jean-Luc Mélenchon ne donnera donc aucune consigne dans l'entre-deux-tours. Les résultats pourraient être dévoilés demain au plus tôt. Quant au candidat et à sa garde rapprochée, ils sont en ce moment à son QG dans le 10e arrondissement de Paris pour une réunion stratégique.
Voilà donc pour cette consultation qui va commencer à la France Insoumise. Merci Mélanie Nunes. Encore un élément dans ce journal, élément important. Comment nos voisins européens ont-ils accueilli les résultats de ce premier tour ? Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Bruxelles soulagée.
Oui, Bruxelles incroyablement soulagée, hein, un soulagement à la mesure de l'angoisse des dernières semaines. C'est frappant, plusieurs commissaires européens se sont exprimés publiquement dès hier soir et même, et ça c'est du jamais vu hein, pour un premier tour, Jean-Claude Juncker a félicité Emmanuel Macron en lui souhaitant bon courage. Clairement, les institutions européennes auraient voté En Marche si elles l'avaient pu. Écoutez le commissaire Pierre Moscovici.
Bruxelles, comme on dit, et les Européens au sens plus large étaient inquiets. Et ce matin, je vois bien qu'il y a un soulagement, pour certains une joie. Marine Le Pen fait un score plus bas qu'attendu. Un jeune leader progressiste européen, brandissant le drapeau européen, arrive en tête au premier tour. C'est pas l'image que certains voulaient renvoyer de la France depuis plusieurs mois. Et c'est forcément un signal positif.
Voilà cette satisfaction, on la sent aussi ailleurs en Europe, notamment à Berlin. Le porte-parole d'Angela Merkel a salué hein, un candidat pro-européen. Alors ces réactions européennes, alors que l'élection est encore en cours, c'est vraiment inhabituel parce que la règle, c'est de ne pas intervenir. Mais à Bruxelles, on justifie cette exception. La France est un pilier central de l'Union, un pays fondateur. Et entre un candidat qui défend l'Europe et une candidate qui veut sa destruction, il est logique de prendre parti.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe 1. On en vient à la météo, Christine Peña. Gros changement pour demain.
Exactement, gros changement, puisque nous avons cette perturbation qui entre et traverse le pays. Elle donnera de la pluie, elle fera chuter les températures. Nous aurons même de la neige sur tous les massifs à partir de mercredi. Voilà. La pluie, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, ces températures, elles chutent à partir de demain. Nous n'aurons pas plus de 10 degrés à Lille, à Cherbourg, 9 à Bourges et Metz. Dans l'après-midi, 11 à Paris et Nancy, 14 à Clermont-Ferrand. Vous voyez que ça se fraîchit. 15 à Limoges, 17 à Bordeaux et pas plus, 17 également à Lyon, jusqu'à 20 à Toulouse et Nîmes et un 24 pour Perpignan demain après-midi.
Pas mal à Perpignan. Merci beaucoup Christine Peña. Allez, dans un instant, le débat d'Europe Midi, débat un peu particulier aujourd'hui, débat d'entre-deux-tours. François Patria pour Emmanuel Macron face à Florian Philippot pour Marine Le Pen. Édition spéciale d'Europe Midi jusqu'à 14h. À tout de suite.
Europe Midi. Spécial présidentiel.
Il est 13h13 sur Europe 1. C'est la suite de cette édition spéciale d'Europe Midi. Vous retrouverez bien sûr Christophe Ondelat demain de 13h15 à 14h. Place maintenant donc au débat d'Europe Midi avec vos invités, Maxime Switek.
Oui, le débat d'Europe Midi, débat d'entre-deux-tours. Pour débattre avec nous en studio, Florian Philippot, vice-président du Front National. Vous représentez ici même, évidemment, Marine Le Pen. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être là. Face à vous, François Patria, bonjour.
Bonjour.
Sénateur socialiste de Côte d'Or, ancien ministre de l'Agriculture, soutien d'Emmanuel Macron. Je voulais d'abord vous remercier tous les deux, messieurs, d'avoir accepté de débattre dès aujourd'hui sur Europe 1 aussi rapidement après ce premier tour. Ma première question est pour vous, François Patria. Votre candidat Emmanuel Macron a toujours refusé l'étiquette de favori avant le premier tour. Est-ce que ce midi, clairement, vous convenez, comme Marine Le Pen l'a fait ce matin, qu'Emmanuel Macron est le favori ?
On va sortir un peu de ce débat parce que le débat qui va avoir lieu maintenant et qui commence aujourd'hui, effectivement, va être un affrontement projet contre projet. Projet complètement opposé, complètement différent. Et c'est sur ce choix-là que les Français vont avoir à se prononcer
dans
15 jours. Mais pardon,
sur le statut de favori, est-ce que vous reconnaissez, comme le disent des instituts de sondage depuis hier soir, que vous avez une nette avance à 15 jours du second tour ?
Je ne sais pas si on a de l'avance aujourd'hui. Je sais que si les progressistes de ce pays, si les républicains de ce pays se réunissent et s'ils examinent effectivement les programmes comme on va le faire maintenant, je l'espère, sur les points cruciaux, ceux de l'Europe, de la sécurité, de l'immigration, des immigrés, des territoires... Eh bien, les Français auront à choisir. Et moi, je ne doute pas, effectivement, parce que ça fait 2 ans, je crois, qu'Emmanuel Macron sera en capacité d'être demain le président de la République, qu'il a les compétences, qu'il a l'étoffe, qu'il a la carrure pour le faire. Je dis qu'aujourd'hui, nous devrions l'emporter, surtout au vu du constat projet contre projet.
Florian Philippot, on a été un peu surpris ce matin. Marine Le Pen a accepté, entre guillemets, le statut de challenger. Elle dit oui, c'est notre statut aujourd'hui. Elle, qu'on avait connue peut-être un peu plus combative encore, et qui avait dit « j'arriverai en tête du premier tour ».
Ah mais il n'empêche, un challenger peut parfaitement être combatif et c'est même, je pense, l'enjeu du challenger que d'être le plus combatif possible pour déjouer ce qui pourrait apparaître comme le sort. Non, nous on pense que la victoire est possible mais on est lucide aussi. Mm-hmm. Aujourd'hui effectivement on part dans une position de challenger et M. Macron est favori. On a une dizaine de points à remonter en 2 semaines, je pense que c'est parfaitement faisable. Il faut aller convaincre chacune et chacun. Et vous avez là, je vous rejoins, M. Patria, ce sera maintenant projet contre projet. Et nos projets sont très différents, très opposés. C'est pour ça que ce second tour il est extrêmement intéressant. Je pense qu'il est riche parce que nous avons des visions très différentes.
Marine Le Pen a dit autre chose ce matin. Elle était à Rouvroy dans le Pas-de-Calais. Elle a dit le vieux front républicain tout pourri essaie de se coaliser. Qu'a voulu dire Marine Le Pen, Florian Philippot ?
Avec quelques ratés d'ailleurs, si j'en crois ce que disent les uns et les autres. C'est-à-dire que chacun a compris qu'il n'y avait rien de républicain là-dedans, qu'il s'agit simplement de se sauver des postes et des sièges. Ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça, que sont les états-majors des partis politiques, parfois même des guerres internes aux partis politiques qui s'agitent. Bon, tout cela n'est pas très intéressant et les Français lucidement regardent cette chose-là en se disant « Attendez, ça fait 30 ans qu'on nous fait le coup, est-ce que la France va mieux depuis 30 ans ?» Non, on s'enfonce dans le chômage de masse, les inégalités, l'insécurité, la pauvreté, et ça va pas mieux. Et puis il faut bien que les Français réfléchissent à cette question de la République. En quoi ces gens-là seraient républicains, eux qui ont bafoué le traité de Lisbonne, le nom des Français à la Constitution européenne. Nous proposons le référendum, vous voyez, le référendum d'initiative populaire qu'on veut créer, on veut aller rechercher la souveraineté populaire qui a été donnée à Bruxelles, on veut mettre en place la proportionnelle intégrale aux élections. Ça, c'est la démocratie, ça, c'est la République, et je pense que les Français sont en train de bien le comprendre.
On va parler de l'Europe dans un instant pour rentrer dans les programmes. Juste un mot, François Patria, le vieux front républicain tout pourri.
Bon, d'abord, vous savez que En Marche, nous sommes dans la bienveillance, donc nous évitons à la fois les sarcasmes, les caricatures, les insultes et les grossièretés. Donc, on va passer un peu sur cet épiphénomène qui n'a pas grand intérêt en soi. J'entends parler des bagarres dans les partis. Si je connais le parti du Front National de l'extérieur, heureusement pour ce qui me concerne, les bagarres au sein du Front National, elles ne sont pas non plus minces. Il en existe tous les jours. Et ce qui doit nous séparer, je dis, c'est mettre fin à un mensonge permanent. Quand on parle des oubliés des territoires, quand on parle demain des économies, quand on parle de sécurité, moi je suis de ceux qui courageusement disent aujourd'hui que la France de 2017, elle est meilleure que la France de 2012. Parce que nous avons assaini les comptes de la nation, parce qu'aujourd'hui il y a des équilibres qui ont été rétablis, parce qu'aujourd'hui la sécurité est mieux assurée dans notre pays face aux dangers du terrorisme, et que ce gouvernement qu'on dit aujourd'hui, à qui on jette la pierre aujourd'hui, a mené des combats qui portent leurs fruits aujourd'hui. Il y a eu des échecs, il y a des difficultés, il y a eu du chômage, on va le reconnaître aussi. Mmh. On va voir comment on peut en sortir aujourd'hui. Et ça n'est pas, avec Emmanuel Macron, nous ne proposons pas justement aujourd'hui de remettre tout le monde dans le circuit. Il s'agit d'un renouvellement politique intégral avec demain, dans la future Assemblée, 50% de nouveaux élus.
Florian
Donc,
Philippe,
pas les mêmes.
Écoutez, merci en faisant le bilan, en essayant de positiver le bilan du quinquennat Hollande. Merci de faire le travail, de reconnaître qu'effectivement, Macron, c'est le continuateur et le dauphin de François Hollande. C'est bien de le reconnaître parce que c'est pas toujours le cas de ceux qui représentent cette candidature. Il a été ministre pendant 2 ans, vous avez raison, ministre de l'économie, donc il porte une lourde responsabilité dans le bilan que moi je juge très mauvais. Je suis désolé. Il y a 1 million de chômeurs en plus, 300 milliards de dettes en plus, des inégalités qui se sont creusées et le terrorisme islamiste qui a explosé. Maintenant, vous dites renouvellement, monsieur Patria, vous êtes arrivé quand au Parti socialiste ?
Je ne parle pas de moi, moi je suis là.
Si, vous êtes
là. Je suis là pour m'autodétruire. Moi, je ne suis pas là pour faire ma promotion.
Vous autodétruire.
Je ne serai plus candidat à rien.
Ah non, faut pas vous autodétruire.
Je veux dire par là que dans le mouvement En Marche auquel j'ai adhéré,
vous êtes arrivé en 1974.
Il est prévu demain, il y a renouvellement, et j'y suis justement parce que je ne brigue rien, que je n'espère rien, que je ne veux rien, que je ne suis candidat à rien.
Donc bon, voilà. Vous êtes arrivé, c'est pas honteux d'ailleurs, mais vous êtes arrivé au Parti Socialiste en 1974 et vous y êtes resté 43 ans.
Très bien.
Bon, sur Wikipédia, ils mettent 74. Bon.
C'est bien.
Voilà, donc en matière de renouvellement, je suis là, je ne sais pas contre vous, mais et on pourrait citer M. Robert Rue, M. Valls, M. Cohn-Bendit, M. Bayrou, M. Madelin, etc. Tout ce qui aujourd'hui se coalise autour d'Emmanuel Macron, il n'y a aucun renouvellement.
Le renouvellement, François Patria.
C'est 30 ans, 40 ans de vie politique française.
Vous dites que vous êtes là pour vous autodétruire.
Je veux dire par là que je ne suis candidat à rien, que je suis là pour faire en sorte que ma génération passe la main.
On a compris.
Et je participe aujourd'hui à la commission.
Comment va se faire ce transfert intergénérationnel, entre guillemets, quand, et c'est ce que dit à l'instant Florian Philippot, on sait que des figures qu'on a l'habitude de voir depuis quelques années, voire dizaines d'années, comme Alain Madelin, Robert Rue, etc., sont et soutiennent Emmanuel Macron.
Il y a déjà beaucoup plus longtemps qu'on voit Madame Le Pen que Monsieur Macron. Alors je pourrais faire aussi, mais je ne m'adonne pas à ce petit jeu. Non, je participe à la commission d'investiture. C'est sûr que nous travaillons tous les jours, nous allons travailler 4 jours cette semaine. Dans les candidats que nous allons proposer demain, il y aura presque 50% de renouvellement intégral, de gens intégral, qui sont des gens qui sont jeunes, qui sont impliqués dans la vie active. Ce renouvellement, nous allons le faire d'abord en désignant des candidats qui viennent de la société civile. Il n'y aura demain que la moitié d'anciens élus, soit nationaux, soit territoriaux. C'est quand même déjà ça, un vrai renouvellement et renouvellement des pratiques. Avec demain, cumul des mandats dans le temps. C'est vrai qu'on a vécu avec d'autres cumuls avant, mais enfin, j'en ai jamais profité à titre personnel. J'ai eu des périodes où j'ai été élu, des périodes où j'ai été battu. Enfin, moi, j'ai toujours été réformiste, j'étais rocardien, madésiste, strauss-kahnien. Aujourd'hui, je suis macronien et je suis constant dans mes convictions.
Ça, je ne le remets pas en cause. Je pense que vous êtes constant. Vous venez du Parti Socialiste, vous avez soutenu Strauss-Kahn, etc. Et aujourd'hui, vous soutenez M. Macron. Mais ça montre qu'il y a une continuité totale, si vous voulez, de ce... M. Macron, c'est quoi? Ça veut dire demain, encore plus d'Union européenne, plus d'immigration, plus de dérégulation, ce que vous appelez l'ubérisation. Franchement, je ne pense pas que c'est en mettant en place plus de ce qu'on a déjà fait depuis 30 ans qu'on va s'en sortir. Moi, je pense qu'il faut faire différemment.
On va s'arrêter une seconde sur l'Europe, pour rentrer dans les programmes. Sur l'Europe, Florian Philippot, que propose concrètement Marine Le Pen? Sortir de l'Union? Sortir de l'euro?
Une renégociation urgente des traités, suivie d'un référendum au bout de 6 mois, pour que les Français décident eux-mêmes ce qu'ils en pensent. Nous, on veut récupérer notre souveraineté nationale. Voilà. Considère que ça a été un échec. Ne pas maîtriser notre monnaie, ne pas maîtriser nos frontières, ne pas maîtriser nos frontières migratoires comme nos frontières économiques d'ailleurs, dans le cadre des accords commerciaux, également en matière agricole. Ne pas maîtriser librement notre budget. C'est de moins en moins le cas puisqu'on se fait retoquer notre budget, on doit nous imposer un peu plus d'austérité pour qu'il passe. Accepter des directives comme les directives détachement des travailleurs, les directives de libéralisation des services publics, etc., etc., etc. Ça n'est pas jouable, ça n'a produit que de mauvais résultats en termes de croissance, de désindustrialisation et d'insécurité. On a été mis en vulnérabilité par l'ouverture totale des frontières de l'Union européenne. Il faut donc que ça change par un système d'Europe des nations libres, si vous voulez.
François,
c'est un peu l'Europe
Patria.
Générale de Gaulle, dans le principe, mais adaptée au XXIe siècle, l'Europe des nations souveraines qui coopèrent sur des grands projets.
François Patria, que répondez-vous monsieur, à ce moins d'union?
Bon, alors, M. Philippot ne veut pas lire le programme d'Emmanuel Macron, je peux comprendre par ailleurs. Je vais essayer en deux ou trois mots de dire quelques évidences. Mmh. Emmanuel Macron considère aujourd'hui que l'Europe doit être refondée. Il s'agit d'une différence éventuelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout mettre à bas et qu'on ne va pas aujourd'hui perdre tout ce que l'Europe nous a apporté. D'abord, sortir de l'Europe, c'est préparer la guerre. Chose. Rappelons-nous la paix. Non. C'est préparer la guerre.
Oui, vous voulez humilier
en
guerre.
Je ne vous ai pas interrompu.
Non, mais, monsieur,
je ne vous interromps jamais. Non.
Mais parce que je ne fais pas d'argument.
Non, mais je ne vous interromps pas. Je ne vous interromps pas. Non, je ne vous interromps pas.
Ça, c'est du terrorisme intellectuel.
Pas du tout. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, non. C'est très bien
que
l'Europe. L'Europe nous a apporté la paix.
Directive détachement des travailleurs.
Elle nous apporte des protections.
Eh
bien, puisque alors.
Laissez François Patria.
Ouais, je vous laisse.
Alors,
c'est ça le sujet de fond, pas la guerre.
D'accord, mais c'est vous qui parlez et je peux parler.
Allez-y, François Patria.
Bien, alors, d'abord, de refonder l'Europe. Ensuite, dans le cadre de la sécurité, de remettre aujourd'hui presque 5000 personnes aux frontières de l'Europe pour assurer la sécurité. De même temps, de donner à la France les moyens d'assurer sa sécurité avec une task force, avec autour des gens liés anti-Daesh auprès du président de la République, une centaine de personnes qui se réuniront tous les mois. De créer demain 10 000 policiers sur le territoire. Et dans l'Europe. L'Europe caricaturée que j'entends. Moi, je suis rural. Je vis au milieu des. J'étais vétérinaire. Je vis au milieu du monde agricole que je connais particulièrement bien, ou du milieu du monde viticole. Je n'imagine pas aujourd'hui une renégociation autour de l'Europe qui ferait perdre à notre capacité exportatrice toute la force qu'elle a aujourd'hui. Dans le domaine de l'Europe, nous avons, au niveau des échanges entre les étudiants, au niveau. J'ai présidé une région pendant 12 ans. Je vois bien tout ce que toute l'Europe nous a apporté en particulier. Trop de normes. Oui, qu'il y ait trop de normes aujourd'hui, mais Emmanuel Macron dit aujourd'hui nous allons supprimer toutes les normes qui ont été surtransposées. Voilà des mesures qu'on peut prendre.
Florian Philippot, un mot et on fait une pause.
Oui, non, ce qu'il ne pourra pas faire, parce qu'il ne pourra pas supprimer ce qu'il veut, il est soumis à des traités qu'il a acceptés, qu'il a signés. Pour le reste, les frontières européennes, je n'y crois pas un instant. C'est 14 000 km de frontières gérées par la Grèce, l'Italie submergée, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut des frontières nationales, qu'ils ne soient pas des murs, hein, qu'ils soient des filtres, et recréer des douaniers français, 6 000 douaniers français sur le mandat. Quant à l'argent de l'Europe, n'oubliez jamais une chose, hein, il faut dire tout aux Français. On donne 22 milliards chaque année à l'Europe, elle nous en rend 13, dont les aides agricoles. Donc 22 moins 13, ça fait 9 qui s'envolent. Avec 9 milliards par an, je peux vous assurer qu'on pourrait en faire déjà des choses.
On fait une pause dans ce débat. À tout de suite sur Europe 1, la suite de cette édition spéciale jusqu'à 14h.
Europe Midi, spéciale présidentielle.
Suite de cette édition spéciale présidentielle jusqu'à 14h avec le débat d'Europe Midi et vos invités Maxime Switek.
Nous poursuivons ce débat entre Florian Philippot, vice-président du Front National et qui représente ici Marine Le Pen, et François Patria, sénateur socialiste de Côte d'Or, soutien d'Emmanuel Macron. Merci encore à tous les deux d'être là. Une question sur l'immigration. Marine Le Pen, à plusieurs reprises, Florian Philippot, a qualifié Emmanuel Macron d'immigrationniste. Qu'est-ce que ça veut dire, un immigrationniste ?
Bah, ça signifie, et il s'en cache pas d'ailleurs, hein, puisque je me souviens d'une tribune qu'il a publiée, je crois, dans le journal Le Monde, quelques semaines avant le premier tour, qu'il est favorable à peu près la politique menée par Madame Merkel en Allemagne, c'est-à-dire un accueil déraisonnable. D'immigration, notamment dans la crise des migrants, puisqu'il est allé également féliciter Madame Merkel pour sa politique, qu'il avait déjà félicité dans cette tribune. Je pense que ça n'est pas raisonnable. Je pense que nous avons 6 millions, ça c'est pas moi qui le pense, ça ce sont les faits, nous avons plus de 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, déjà malheureusement des ghettos communautaires qui se sont constitués ici et là dans certains de nos quartiers, et qu'ajouter à cela une immigration non maîtrisée, ça n'est pas raisonnable. C'est pour cela que nous souhaitons notamment avoir des frontières nationales, renégocier nos accords avec un certain nombre de pays d'origine, faire jouer notre diplomatie là où il y a les foyers de crise, hein, notamment au Moyen-Orient évidemment, ou dans la Corne de l'Afrique, mais pas continuer avec cette politique qui n'a pas produit de bons résultats en Allemagne et qui peut produire demain non seulement des problèmes économiques et sociaux, mais aussi des problèmes sécuritaires.
François Patria.
Trois choses. D'abord, sur le couple franco-allemand, il est le socle, la base de l'Europe, et je suis fier de voir qu'aujourd'hui, quelles que soient leurs idées, d'opposer parfois aux nôtres, eh bien, les leaders allemands ont salué la première avancée d'Emmanuel Macron hier comme un gage de renforcement de l'Europe que nous voulons et que souhaitent les Français.
Et sur l'immigration.
En deuxièmement, sur l'immigration. Je crois qu'il faut aussi arrêter avec les chiffres des caricatures, 6 millions, 9 millions. On peut tous les jours faire peur aux gens. La peur et le populisme, ce sont vos arguments permanents. La réalité des choses, c'est quoi? C'est 200 000 titres de séjour par an écoutez bien, et seulement 12 000 regroupements familiaux. Est-ce qu'on peut dire ça aux Français aujourd'hui? C'est 200 000 séjours de gens qui vont et qui repartent. Et la France est le troisième pays en Europe qui accueille le plus de pays, d'autres, d'étudiants étrangers. Et c'est un honneur pour nous et c'est une richesse pour nous. Emmanuel Macron n'est pas immigrationniste. Il est au contraire pour des échanges qui sont avec les pays de l'Europe et d'autres pays, dans une richesse pour la France. Alors ensuite, il y a un tout petit mot. Tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre. Oui. Sur le bilan d'Emmanuel Macron, sur les travailleurs détachés, c'est la loi Macron qui aujourd'hui permet de contrôler tous les travailleurs détachés. Si aujourd'hui 196 000 emplois nets créés en 2016 en France, c'est parce qu'il y a eu les mesures d'allègement de compétitivité du travail qui ont permis d'avoir un solde positif. Il y a dans la loi Macron 7 ou 8 mesures qui aujourd'hui ont permis de relancer la France. Mon regret, c'est qu'elle n'ait pas été prise plus tôt. C'est ça mon regret.
Je referme cette parenthèse sur la loi Macron sur les travailleurs détachés. Oui, je reviens à l'immigration. Florian,
juste un tout petit point.
Ce que dit François Patrion,
la deuxième loi Macron, elle s'appelait la loi El Khomri. Et ça, elle devait s'appeler loi Macron normalement.
Elle ne va pas si loin à mon goût.
Moi je suis pour l'abrogation de la loi El Khomri.
Nous allons parler dans un instant.
Vous voulez encore plus déréguler le marché du travail.
Rejoignez-là les insoumis et ça se voit.
Messieurs, s'il vous plaît, nous allons parler dans un instant. On a encore du temps.
C'est intéressant de le dire. La loi El Khomri ne va pas assez loin selon le représentant de Monsieur Macron.
On en parlera dans un instant, mais je reviens sur l'immigration. Ce que vous dit François Patria, Florian Philippot, c'est que ça n'est pas l'invasion que vous décrivez.
Mais moi, j'ai jamais décrit une invasion. Je dis simplement que c'est déraisonnable. Parce que vous parlez des chiffres de l'immigration légale, 200, alors ça, maintenant, c'est 230 000 titres de séjour. C'est un peu plus que 200 000. Avec, vous faites croire que tous repartent. Non, ça n'est pas vrai. Tous ne partent pas. À peu près, on a un solde à peu près de 100, 120 000, 130 000 par an en positif.
Donc c'est quand même, ne peut pas accepter.
C'est quand même beaucoup.
Mais à cela,
il faut y ajouter l'immigration illégale, évidemment, clandestine. Il faut y ajouter l'asile, qui a dépassé le seuil des 100 000 par an de demandes d'asile. Alors, il y a ceux qu'on accepte, un tiers, puis ceux qu'on n'accepte pas, mais ils restent tous. Enfin, 96% restent d'après la Cour des comptes. Donc, ça fait quand même beaucoup au bout d'un moment. Voilà, c'est ça que nous disons. Quant au couple franco-allemand, moi, je suis très attaché au couple franco-allemand, mais il faut que ce soit un couple, pas une relation dominant-dominée, si vous voulez. Parce qu'on a bien vu plusieurs candidats à la présidentielle, dont M. Macron, plutôt aller chercher un peu l'investiture de Mme Merkel, ou passer un entretien d'embauche avec Mme Merkel. Et je vous cite ce qu'avait dit, c'était rapporté par la presse française, un des plus proches conseillers Mme Merkel, qui a dit « on aime beaucoup M. Macron parce qu'il nous dit ce qu'on veut entendre ». Bah, je crois que dans un couple, le but, c'est pas de dire ce que l'autre veut entendre forcément. C'est aussi d'être capable de lui dire des choses qui lui plaisent pas forcément, d'être capable de construire des choses, et puis aussi de sortir un petit peu simplement d'une vision un peu étriquée. Il n'y a pas que l'Allemagne dans la vie. La France, c'est une puissance mondiale, c'est l'outre-mer. D'ailleurs, je me réjouis qu'on soit arrivé en tête. Marine est arrivée en tête en outre-mer hier. C'est un très beau signal. Ce sont les autres pays européens, les autres pays du monde. Et il faut qu'on soit capable de discuter, de construire avec tout le monde.
François Patria, vous pouvez répondre et après, on passe à l'économie.
Sur l'immigration à nouveau ?
Sur le couple franco-allemand notamment. Non, et sur la dépendance éventuelle de la France à l'Allemagne.
L'Europe que nous souhaitons aujourd'hui, c'est une Europe bien sûr de la sécurité. Et je pense que personne ne peut mieux protéger la France que le concert européen. Non mais imaginez inversement, je vais faire la démonstration par l'absurde, une France isolée en Europe. En quoi aujourd'hui aurait-elle les moyens de sa défense, de son exportation, de son économie? Parce qu'on ne parle jamais d'économie. Avec le Front National, la Suisse, vous savez bien, est un pays à part, avec des ressources à part et un contexte à part.
Vous savez
très bien.
Vous
le savez très bien.
Mais la Norvège, le Royaume-Uni, je sais pas, il y en a plein.
Ben, je suis pas sûr qu'aujourd'hui
ils sont isolés.
Non, mais je considère que ce couple initié par le général de Gaulle et par Adenauer à une époque, l'Europe, quand ils voulaient les pères de l'Europe en 1950, a aujourd'hui apporté la paix, a apporté des richesses, a apporté la croissance, a apporté des emplois. Il y a une période difficile, mais je crois que cette Europe aujourd'hui, elle, dans le domaine de l'innovation, des transports, des échanges, demain du numérique, de tout ce qui va porter l'industrie demain, l'Europe est là pour nous accompagner.
Justement.
Et elle le fait dans les grands travaux. Vous savez, quand je préside la région aujourd'hui, je vois ce que l'Europe apporte dans les territoires. On me dit que les chiffres sont faux tout à l'heure. Mais quand je vois comment elle a soutenu les trains, l'innovation, les entreprises, l'environnement, etc., comment elle le fait. On le fait, mais dans le même temps, nous exportons beaucoup. Et moi, en Bourgogne, je suis content d'exporter du vin en Europe.
En
je suis content
d'exporter.
De moins en moins, c'est
notre
pas vrai.
La part de marché dans le monde est passée de 6 à 3%.
La part des exportations de la France en Europe augmente en Europe toujours. Non. Elle augmente toujours.
François Patria.
Non, malheureusement, ce que vous dites est faux. C'est important. Notre commerce extérieur se porte très mal. En janvier, nous avons fait le plus gros déficit extérieur de toute l'histoire du commerce français, Et notre part de marché dans le monde ne cesse de baisser, y compris en Europe.
Et ça n'est pas. Et ça n'est pas.
Franchement, c'est pas une réussite.
Ça n'est parce que aujourd'hui, vous ne dites plus ce que vous dites. Vous faites marche arrière, c'est Philippot. Au début, vous étiez.
C'est vous qui êtes en marche arrière.
On devait sortir de l'Europe. On devait sortir de l'euro. Maintenant, vous n'en parlez plus trop. Parce que vous savez très bien que demain, la sortie de l'euro, c'est 20% immédiat de perte de pouvoir d'achat pour tous les Français. Et dans le programme de Madame Le Pen, dans le programme de Madame Le Pen, 184 milliards de dépenses, rentrer quoi ? Un impôt de 3% des importations qui rapporte 15 milliards. C'est l'impôt généralisé demain pour les Français que la mère Noël nous propose.
Sur l'euro, en matière d'impôt, attendez, vous êtes déjà c'est faux parce que notre contribution sociale à l'importation, elle financera une prime de pouvoir d'achat. C'est-à-dire que tous les Français qui gagnent moins de 1500 euros par mois, retraités comme salariés, auront une prime d'à peu près 80 euros par mois grâce à ces contributions sociales à l'importation.
C'est 180
maintenant, en matière
milliards,
d'impôt,
184 milliards de dépenses.
L'augmentation de la CSG de 1,7%.
Oui, pour faire quoi ? Pour faire quoi ?
Ben j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait l'augmentation de CSG.
Pour donner du pouvoir d'achat aux salariés. Pour alléger le coût du travail.
Votre économiste s'appelle Monsieur Pisani-Ferry. Monsieur Pisani-Ferry a fait une interview vendredi, c'est en ligne. Hein. Mm-hmm. Et il explique que 60% des retraités vont y perdre du pouvoir d'achat. 60% des retraités à cause de cette augmentation massive de la CSG. Non. Ça, franchement, ça doit faire réfléchir.
Faux. Vous savez très bien
mais
que
la CSG... Mais il a dit lui-même, et c'est votre économiste.
Oui, mais les mêmes retraités gagneront en même temps la taxe d'habitation qui varie entre 700 et 1200 euros par an.
Ils
la gagneront. Qui la gagneront. Bon, ça, on peut...
C'est un autre débat. On nous a répondu, c'est l'État qui paye. Non, c'est l'État qui paye, c'est bien que ce sont les impôts qui payent.
Merci à vous. Je vous coupe pour essayer d'avancer un tout petit peu. François Patria, une mesure pour relancer l'emploi en France. S'il y avait une mesure à sortir du programme d'Emmanuel Macron pour relancer l'emploi en France.
Il y en a au moins trois, il n'y en a pas une semaine. D'abord, alléger le coût du travail en permettant aux entreprises d'avoir plus de liberté et aux salariés d'être mieux protégés et de gagner par la suppression des charges salariales sur les à moins de 2500 euros même au-delà, aujourd'hui, de faire un gain de pouvoir d'achat pour les salariés. Ça permet aux entreprises, d'une part, d'avoir moins de dépenses et d'autre part, aux salariés de gagner plus. La seule mesure, elle est résumée dans tout le programme d'Emmanuel Macron, libérer, protéger. Et à chaque fois, on le démontre, à la fois humainement, socialement et financièrement.
Florian Philippot, une mesure dans le programme de Marine Le Pen pour relancer l'emploi ?
Il y a le patriotisme économique. Avoir le droit, là il y a un problème avec lui, il y a un verrou européen, mais avoir le droit de prioriser les entreprises, les exploitations agricoles, les PME françaises dans les marchés publics, de l'État, des collectivités locales, des grandes entreprises publiques. Et puis la suppression de charges pour toute embauche de jeunes de moins de 21 ans. Mais pour leur mettre le pied à l'étrier.
Mais vous le dites vous-même, un, il y a un verrou économique et deux...
Européen.
Un verrou juridique.
C'est un verrou juridique.
Un verrou européen et deux...
Il faut qu'on s'en libère.
Et deux, deuxième remarque, que dites-vous aux entreprises qui précisément exportent ? Il en reste encore quand même des entreprises françaises qui exportent vers l'Europe.
Dieu merci, oui.
Est-ce que ces entreprises-là, elles ne vont pas en contrepartie, entre guillemets, se voir fermer certains pays ?
Non, mais les autres le font. Aller au Canada, essayer de...
Mais j'en parle en Europe, là, par exemple.
Non, mais d'accord, mais tous les pays européens ont le droit de faire du patriotisme économique. Vous savez, en Suisse, il y a des droits de douane agricoles de 55%. Je dis pas qu'il faut faire pareil,
vous
mais nous, c'est
que la
5%.
Suisse n'est pas dans l'Union.
La Suisse vous fait rêver. Vous aimez tant que ça, les banques ?
Non, mais la Suisse, en tout cas, ils vivent plutôt bien. Et figurez-vous qu'il y a autre chose qui me fait rêver, qui me fait vraiment rêver en Suisse, c'est la démocratie directe. Il y a les votations, les référendums d'initiative populaire. Ils votent très souvent. Et c'est par ce type de votation qu'ils ont, par exemple, limité les grands salaires, qu'ils ont interdit l'abattage rituel, qu'ils ont mis en place la proportionnelle aux législatives, figurez-vous, en 1918. Nous, on a quand même 100 ans de retard.
Et ce type de référendum populaire, c'est ce que vous voudriez mettre en France pour modifier les institutions.
500 000 signatures, on le mettra dans la Constitution, 500 000 signatures de citoyens permettront de déclencher un référendum pour mettre en place une loi ou abroger une loi.
La démocratie directe, François Patria, est-ce que ça fait aussi partie des chantiers d'Emmanuel Macron ?
D'abord, il y a dans le programme d'Emmanuel Macron une part de proportionnel qui est prévue pour les... Il y a des suppressions de parlementaires aussi qui sont prévues au Sénat et à l'Assemblée nationale. Il y a aussi de la démocratie directe qui est par la consultation et surtout par le fait de mieux libérer les territoires, de redonner de l'autonomie. L'école a besoin d'autonomie, mais les territoires ont besoin d'autonomie. Les régions, les collectivités ont besoin d'économie. Et il y a dans ce domaine-là de l'initiative populaire qui existe aussi. Vraiment, je vais dire à M. Philippot quand même, parce que j'entends bien un mot de contre-vérité. L'Europe les dérange partout, sauf quand il s'agit d'immunité parlementaire. Hein. Là, l'Europe, ça les arrange.
Une question. Ça dépend pas de l'Europe, ça dépend de la Constitution française.
Une question, messieurs, avant de refermer ce débat. Une question,
messieurs. Ceci dit, je vais être cohérent jusqu'au bout. Nous souhaitons, nous, la suppression de ces instances européennes.
Donc, merci, Florian Philippot.
On fera faire des économies.
Une question avant de refermer ce débat, Florian Philippot. Quelle est votre ambition et l'ambition de Marine Le Pen pour le second tour ?
De gagner. De gagner. On va faire une belle campagne, je crois très positive, très joyeuse aussi, et sur un projet, et puis de gagner.
Gagner avec qui ? J'ai vu ce matin que vous aviez félicité par exemple Nicolas Dupont-Aignan pour son score. Est-ce que vous lui tendez la main aujourd'hui ?
Oui, mais enfin, oui, il a fait un bon score, objectivement, supérieur à ce que lui prédisaient les sondages. On tend la main à tous les patriotes. Il y a des patriotes absolument partout, qui sont heureusement très majoritaires dans notre pays et qui veulent, je crois, une France, qui veulent voter avec leur cœur et leur raison et pas en fonction de consignes d'état-major parisien de parti politique.
Patriote, c'est un mot qu'Emmanuel Macron a employé hier soir, François Patria. Quelle est votre ambition et l'ambition d'Emmanuel Macron ?
Je ne vais pas te donner la définition du patriote. L'ambition d'Emmanuel Macron, c'est rassembler. Rassembler autour de lui le maximum de progressistes contre tous les conservateurs de tout poil et tous les joueurs de tout poil, dont fait partie aujourd'hui le Front National, le repli sur soi, le souverainisme. Le souverainisme, c'est du conservatisme. Donc rassembler, au-delà des conservatismes, tous ceux qui veulent progresser demain.
Merci à tous les deux.
Normalement, la Constitution française vous demande de défendre la souveraineté nationale. C'est écrit dans la Constitution.
Merci à tous les deux. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, François Patria, sénateur socialiste de Côte d'Or, soutien d'Emmanuel Macron. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce débat en direct aujourd'hui, au lendemain du premier tour dans Europe Midi. Exactement, enfin, vous avez inauguré le débat. Il y en aura d'autres entre les deux camps d'ici au deuxième tour dans Europe Midi. L'édition spéciale se poursuit jusqu'à 14h. Dans un instant, un autre débat d'éditorialiste. A tout de suite.
Europe Midi, spécial présidentiel.
Il est 13h43 sur Europe 1. C'est la suite de cette édition spéciale jusqu'à 14h avec maintenant Maxime Switek, le débat des éditorialistes.
Deux éditorialistes avec nous, deux éditorialistes que vous avez l'habitude d'entendre ici dans ce débat d'Europe Midi. Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour.
Journaliste à Slate.fr, auteur notamment de Comment se dire adieu aux éditions La Thèse. Jean-Sébastien Ferjou, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la publication d'Atlantico, du site internet Atlantico. Merci à tous les deux d'être là. Juste une chose, depuis hier soir, on a entendu énormément d'enseignements sortis de ce premier tour. Est-ce que vous, il y a pour vous un fait beaucoup plus marquant que les autres, Claude Askolovitch ?
Jean-Luc Mélenchon, au contraire de toute son histoire politique, jeune militant trotskiste, militant responsable, ministre socialiste, étant incapable de faire la différence entre un politicien bourgeois Emmanuel Macron et une candidate de l'extrême droite Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon ne parvenant pas à dire, bien évidemment, demain matin, si Macron est élu, je serai dans la rue contre lui, mais en attendant, l'extrême droite ne passe pas, donc je voterai Macron pour le combattre. Qu'il ne soit pas capable de dire cela, Jean-Luc Mélenchon, montre tout autant que, on va dire, l'humiliation de Hamon, l'explosion, la déliquescence, la décomposition des évidences des cultures de la gauche. Pour mémoire, en 2002, contre Lionel Jospin qui ergotait, Jean-Luc Mélenchon avait lancé un appel à voter Chirac contre Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il s'est transmuté en une espèce de prophète de la colère, d'une colère et d'un refus finalement beaucoup plus radicaux que ceux de Marine Le Pen, et du coup n'est plus capable de même d'éduquer les gens, les jeunes gens qui le suivent, à cette distinction fondamentale entre le champ démocratique et le reste, l'extrême droite.
Jean-Sébastien
Ferjou, ça me fascine.
Est-ce que ça aussi, ça vous fascine ?
plus ou moins, c'est pas la chose qui a le plus retenu
vous pourrez nous dire ce qui a le plus retenu votre attention, mais simplement
Sébastien, vous avez raison, vous avez tort, parce que ça laissera des traces. Il y a toute une jeune génération qui regarde.
Je pense que le Front National,
Sébastien n'a encore rien dit. Comment est-ce qu'il peut avoir raison et tort? Il n'a encore rien dit.
Il ergotait, on aurait dit Jean-Luc Mélenchon qui ne choisit pas.
Mais écoutez, on aurait dit Jean-Luc Mélenchon, mais dans ce cas-là, Emmanuel Macron qui faisait la fête hier soir, on peut pas à la fois considérer que l'heure est grave, que la démocratie ou la République sont en danger et aller faire la fête. Il faut choisir son camp. Donc certes, Emmanuel Macron n'a pas dit, lui, que la République était en danger, mais enfin, Jacques Chirac, il avait joué la carte de la gravité. Donc maintenant, le Front National de 2017, et on peut contester effectivement un certain nombre de points de l'idéologie qui sous-tend le Front National encore aujourd'hui, même s'il a beaucoup évolué, mais enfin, quoi qu'il en soit, ça n'est plus le même parti. Donc il y a des gens qui refusent le système dans lequel on vit. Je ne suis pas certain qu'il y ait une adhésion à 100% à ce que proposait Jean-Luc Mélenchon. On l'a bien vu, il y a des électeurs qui utilisent des béliers pour essayer de démolir un système qui ne veut pas d'eux, qui ne veut pas les écouter. Maintenant, justement, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a beaucoup parlé du fait qu'il y a un électorat finalement qui soit divisé en quatre grands blocs. On voit bien qui était le quatuor de tête. Mais il y a aussi l'abstention. Quand on regarde en nombre de voix, c'est toujours utile de regarder en nombre de voix dans l'absolu. L'abstention, bien sûr, elle n'est pas plus élevée que dans d'autres scrutins,
elle est plutôt plus faible.
Simplement, le premier parti hier, ce sont les abstentionnistes, plus de 10 millions de voix qui sont dans l'abstention. Emmanuel Macron, c'est 8 300 000 ou 400 000 voix. Marine Le Pen, c'est 7 500 000 voix. Voilà, on n'est pas dans une configuration avec des candidats de premier tour qui font plutôt 30%, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas une dynamique incroyable en faveur de ce candidat du renouveau qui est en train de recomposer la vie politique française. Et je pense que ça va beaucoup compter dans le quinquennat qui vient, parce qu'Emmanuel Macron, il s'appuie sur une base sociologique qui est très faible, même si, effectivement, les gens, très probablement, vont voter pour lui pour éviter Marine Le Pen.
Vous avez oublié les abstentionnistes, Claude Haskolovitch.
Non, faut jamais oublier les abstentionnistes. En même temps, ils sont libres s'ils sont abstentionnistes, parce qu'ils ont essayé de s'abstraire, on va dire, de cette célébration commune de l'élection. Et je peux très bien comprendre pourquoi des gens s'abstiendraient. À un moment donné, c'est vain. Sur Emmanuel Macron, et là on peut rebondir, Emmanuel Macron n'est en rien candidat du renouveau. Il est nouveau par rapport à lui-même. Il n'a pas 40 ans, il les aura en décembre prochain. Mais c'est tout simplement un homme qui a constaté, parce qu'il était à l'intérieur de ce qu'était la famille socialiste, hollandaise, valsienne, etc., que ces gens-là n'existaient plus. C'est pas hier que le PS s'est effondré. Le PS s'est décomposé en exerçant le pouvoir de la manière que l'on sait, que l'on a vu et sans l'avoir pensé auparavant. Emmanuel Macron est juste quelqu'un qui a une énorme confiance en lui-même, qui a observé que ces gens-là n'existaient plus et qui s'est dit qu'il pouvait y aller. Ensuite, il y a eu un accident industriel à droite qui fait que François Fillon a perdu les voix marginales qui lui aura permis d'être au-delà de ce qu'il a fait, point final. Mais donc il n'y a pas de renouveau. La sociologie, Verjou a raison, et l'idéologie que porte Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle communément les modernes, mais depuis les années 60 en
Je
France,
m'arrête
c'est
sur
européen et libéral.
Un mot qui a été repris d'ailleurs par plusieurs ténors de la droite depuis ce matin, c'est le terme d'accident, accident industriel. C'est-à-dire que François Fillon en serait là uniquement à cause des affaires. Est-ce que c'est aussi votre théorie, Jean-Sébastien Verjou?
Non, je pense que l'accident industriel, bien sûr qu'il y a une responsabilité incontestable de François Fillon, il l'a reconnu lui-même, bien sûr que les affaires ont joué un rôle majeur dans cette campagne électorale, mais il y a aussi le quinquennat précédent, c'est-à-dire que la droite avait considéré, comme François Hollande l'avait fait avant, qu'il suffirait de jouer sur l'envie d'alternance des Français pour se faire élire. Il n'y a eu aucun travail de la droite. La droite a passé 5 ans à se bouffer le nez. Il y a d'abord eu la guerre Fillon-Copé, après il y a eu les péripéties liées au retour de Nicolas Sarkozy, après il y a eu la présidence de l'UMP, et après, il y a eu une primaire interminable. Pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas été fichus de faire une clarification idéologique. Moyennant quoi, la droite, elle est incapable aujourd'hui de vous dire si elle est sens commun, si elle est libérale, si elle est moderne, comme le disait Claude, quoique je ne suis pas certain de ce que veuille dire moderne. Aujourd'hui,
moderne,
si elle est
conservatrice, des années 60.
Si elle est conservatrice, non mais voilà, c'est le point. Si elle est conservatrice, elle n'a pas fait ce boulot-là. Et ben de toute façon, il était logique qu'elle en arrive d'une certaine manière là, parce que la moindre chose, le moindre petit accident sur son parcours, allait l'affaiblir. Là, et ils n'ont pas eu un petit accident, ils ont eu un gros accident.
Et ça amène Alain Juppé à dire ce matin qu'il faut changer la ligne politique des Républicains.
Oui, mais enfin, là où Alain Juppé oublie quelque chose, c'est qu'il a raison quand il dit que la ligne politique de François Fillon a posé problème. Simplement, je ne suis pas certain que la ligne politique, je suis même assez certain du contraire, à vrai dire, la ligne politique d'Alain Juppé, indépendamment de la personne qu'il est, par la stature d'homme d'État qu'il avait, il pouvait rassurer un certain nombre d'électeurs de droite, mais la ligne politique qui est la sienne ne correspond ni de près ni de loin à ce qu'est l'électorat de droite aujourd'hui.
Claude, qui et comment, j'allais dire, pour les législatives à droite? Qui peut mener la bataille? Qui peut mener le combat? Et avec quelle ligne politique?
Le problème qu'il y a à la droite, c'est que on peut diverger. Ce qu'avait mis en place programmatiquement ou culturellement, ou la musique qu'avait mis en place, puisqu'on parle de ténor, la musique qu'avait mis en place François Fillon fonctionnait. Et il a poursuivi dans sa campagne aller chercher chance commun. C'est-à-dire que l'envie du grand soir libéral, entre guillemets, l'envie d'en finir avec l'État.
C'est pas très libéral.
Non, je poursuis. Il y avait l'envie du grand soir libéral. Il y avait l'envie d'en finir avec le carcan du frais. Il y avait le ressourcement identitaire et le conservatisme des valeurs, ce qui n'est pas mésestimable. Je parle là de sens commun. En gros, il appuyait sur pas mal de touches qui devaient sensibiliser la droite. Il était lui-même en adéquation. Quand je parle d'accident industriel, c'est qu'il était bogué. Voilà, il y avait des fêlures, on les connaît. Qui mène les législatives? Je pense que ça n'a strictement aucune importance. Aujourd'hui, la droite
française... Sauf que vous savez qu'ils vont se battre maintenant.
Oui, mais ça n'a aucune importance. Ils peuvent juste s'abîmer un peu plus. Aujourd'hui, ils ont un gros problème, la droite. Elle est sortie du jeu. C'est comme Bayrou en 2007. On peut faire un débat en plus sur une radio, n'y est plus. Est-ce que Marine Le Pen l'emportera par surprise? Ou fera en tout cas un score suffisant pour incarner une opposition durable au nouveau président possible, Emmanuel Macron? Et est-ce que du coup, dans les législatives qui suivront, en dépit de l'impréparation, de la dislocation de son parti, elle s'installera? La droite, vous savez, pour prendre une métaphore footballistique, son destin n'est pas entre ses mains, c'est pas elle qui fait le jeu. Après, on verra si Marine Le Pen rate son deuxième tour, si Macron l'écrase. Dans ce cas-là, la droite a quelque chose à jouer. Quand les partis politiques sont abîmés, pour des raisons autres que leur inadéquation idéologique, et je crois que c'est le cas des Républicains, alors ils s'en sortent sur leur ancrage local. Ça a longtemps été le cas jusqu'à aujourd'hui du PS, qui maintenant ne l'a plus. Il y a des grands barons de la droite, je compte plus sur eux que sur de jeunes ambitions. qui ont largement dépassé les 40 ans d'ailleurs.
On va parler du PS dans un instant, simplement sur la droite, encore un mot Jean-Sébastien.
Oui, moi je suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse qu'en fait Claude Ascolovic, parce que ça va compter justement.
Si vous n'aimez pas les territoires, vous n'aimez pas la France.
Non, c'est beau, débrouillez-vous ça. Avec ça.
Je sais pas quel est le rapport avec ce dont on est en train de parler.
Je dis que ce sont les ancrages locaux. Oui, Xavier Bertrand,
mais
précisez, ça compte.
Non, mais il y a aussi autre chose qui dépasse de très loin la France ou l'idée qu'on se fait de la France. Il y a une réalité qui est très abrupte, ça s'appelle le financement de la vie politique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, quand on regarde la carte du vote hier, il fait le plein dans les départements qui étaient les départements qui ont voté pour François Hollande en 2012. Il est ancré, quasiment un électeur sur deux de François Hollande a voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été élu plutôt avec un électorat venu de la gauche, quoi qu'il dise de lui-même ou quoi qu'il soit d'ailleurs lui-même. Maintenant, la gauche aux législatives, comment va-t-elle se présenter? Parce que les Verts, les communistes, le Parti Socialiste, ils ont besoin d'argent. Le financement de la vie politique française est aussi lié aux législatives. Chaque voix recueillie aux législatives compte. Donc, il va y avoir beaucoup de candidatures à gauche, un émiettement. Et donc, quand vous avez un candidat qui est porté plutôt par la gauche, mais qui derrière aux législatives, il y aura certainement, s'il est élu, les Français sont légalistes, une petite dynamique en sa faveur, mais il y aura aussi un émiettement des candidatures de gauche. Et c'est là où le fait que la droite, si la droite part au combat unie ou pas, si elle partage la même stratégie, ce qui n'a pas l'air d'être vraiment le cas face à Emmanuel Macron, elle a encore une carte à jouer.
Claude, j'ajoute une chose, Claude Ascolovic, Manuel Valls ce matin, qui dit que c'est la fin d'une histoire pour le PS, avec le score d'hier un peu plus de 6% pour Benoît Hamon. La fin d'une histoire, ça rejoint le titre de votre livre, comment se dire adieu.
Oui, mais la fin de l'histoire, à partir du moment où François Hollande n'est pas en situation de se représenter, c'est terminé. À partir du moment, moi pas tout le refaire, mais à partir du moment où c'est un pouvoir socialiste français qui a bloqué Madame Merkel, femme de droite allemande, sur l'accueil des migrants, alors à quoi ça sert d'avoir un gouvernement socialiste s'il faut exactement le contraire de ce qu'il devrait faire en bonne logique? Ces gens-là, les socialistes, ces gens-là, ceux qui ont entouré François Hollande, Emmanuel Valls, ont perdu toute consistance, toute justification, toute utilité, si j'ose dire, philosophique, morale, esthétique, idéologique, au pouvoir. Ce pauvre Macron, qui en était sans en être, l'a payé. Mais c'est terminé, si vous voulez. C'est pas la défaite de Hamon qui acte la fin de l'histoire, c'est parce que l'histoire est terminée que Hamon ne sert à rien. Et on le sentait physiquement dans les débats de la primaire. On voyait à peu près ce qu'était Mélenchon, même si on a des surprises, on les a depuis hier. On voyait à peu près ce qu'était Macron, voilà, cette gauche matinée de droite qui en tient pour l'Europe avec de la bienveillance. Très bien. Hamon ne servait à rien. C'est horrible de ne servir à rien quand on est dans le débat politique. Pourtant, c'était palpable. Que Manuel Valls dise « j'ai eu raison » alors qu'il a tort, tout en ayant raison, tout en ayant tort. Les destins de gens qu'on a cru fondamentaux. On peut dire Manuel Valls, on peut dire Barouin, on peut dire Wauquiez, on peut dire Fillon, on peut en dire plein. Aujourd'hui, sont suspendus à la présidentielle, second tour de présidentielle. Deux personnages existent. Emmanuel Macron, avec toutes les creux, les ambiguïtés, l'immense confiance en lui. Et parfois aussi un tel besoin d'être approuvé qu'il en change de position trop rapidement. Et Marine Le Pen, dont on a pu voir qu'elle s'était au fond banalisée et embourgeoisée et qu'elle est moins le parti de la colère que n'était Mélenchon. Donc, ces deux personnages incertains sont les seuls qui comptent en ce moment.
Vu ce que dit Claude, Jean-Sébastien Ferjou, on va avoir un renouvellement des têtes dans les mois à venir?
On a déjà un renouvellement des têtes.
Au-delà de cette présidentielle, évidemment.
Dans les mois à venir. Mais je pense qu'Emmanuel Macron, comment va-t-il se sortir des législatives? Parce que regardez, ne serait-ce que la question qui se pose à lui. Il n'est pas encore élu, mais il est quand même.
Vous lui avez reproché d'avoir fait la fête hier soir.
Il est quand même celui qui, manifestement, a le plus de chances de l'être, même si rien n'est jamais écrit à l'avance. Mais je pense que Marine Le Pen a fait une mauvaise campagne et elle a quand même fait un score nettement moins bon que ce que les sondages lui ont promis pendant très longtemps. Donc il est quand même en position de favori incontestablement. Qui va-t-il nommer au gouvernement? Parce que rien que ça, c'est là où vous voyez sa difficulté. C'est-à-dire qu'au soir du deuxième tour, si Bernard Cazeneuve démissionne, enfin le lendemain en tout cas, il va bien falloir qu'il nomme un Premier ministre. Et qui va-t-il nommer? Parce que là, il va être pris dans une injonction contradictoire. Parce qu'il va y avoir une demande très forte de renouveau pour que les Françaises disent pas, ah ben tiens, tout ça pour ça, donc va y avoir une demande de glamour, de Hollywood en quelque sorte. Mais qui a-t-il en stock? Parce que s'il va chercher des personnalités de droite, les électeurs de gauche n'iront pas voter pour des candidats En Marche aux législatives. S'il va chercher des personnalités de gauche réciproquement, enfin vous comprenez la difficulté. Et donc ça va être très compliqué pour lui, mine de rien.
Ça va être compliqué, mais vous reviendrez, messieurs, pour parler de Hollywood et du glamour, comme disait Jean-Sébastien Ferjou. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir accepté de débattre encore une fois aujourd'hui dans Europe Midi. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication du site Atlantico. Claude Ascolovic, journaliste journaliste à Slate.fr et auteur de « Comment se dire adieu » aux éditions Lattès. Merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette édition spéciale d'Europe Midi. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, vous retrouvez Franck Ferrand, que je salue. Bonjour Franck.
Bonjour Maxime. Nous allons parler aujourd'hui de renversement d'alliance, de recomposition politique, de trahison. Mais tout cela, il y a 400 ans, jour pour jour.
Voilà. Au cœur de l'histoire, dans un instant, avec Franck Ferrand. Merci encore une fois à toutes et à tous. À demain, Anissa.
À demain, c'était Maxime Switek sur Europe 1.